Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'infos tous ensemble avec à la une donc ce soir deux infos RTL. Tout d'abord, l'agresseur présumé d'Éric Zemmour lors de son meeting vote à droite. Il est encarté chez les Républicains. Et puis, une autre info RTL. Trois jours après la polémique poignée de main Emmanuel Macron, roi d'Arabie Saoudite, eh bien l'un des suspects de l'assassinat de l'opposant Khashoggi, démembré il y a trois ans, a été interpellé sur notre sol à Roissy. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Un air de campagne pour Emmanuel Macron dans le Cher et dans l'Allier. La course rappelle dans la vaccination anti-Covid et le Moderna qui pourrait bien devenir le nouveau chouchou des Français.
Notre invité de 18h15 sera Mathias Vargon, c'est le chef des urgences à l'hôpital de Saint-Denis dans le département de métropole, donc le moins vacciné.
Et puis on vous racontera l'histoire de ces pompiers du Jura venus distribuer des calendriers et qui finalement ont aidé à l'arrivée d'un bébé. Les courses dans le Quintet Plus à Chantilly, il fallait jouer le 12, le 5, le 6, le 4 et le 8.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL va se pencher sur cette étude de choc dans le monde. Les écarts entre les plus riches et les plus pauvres n'ont pas bougé depuis 1890. 18h30, les dessous de l'actu, les dessous du rush de Noël à la Poste. 18h40, on défait le monde. Les 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Sini et la Dream Team. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le menu ?
Ce soir, on décortique la diplomatie olympique. Les politiques américains bouderont les Jeux de Pékin. Vous découvrirez que ce ne sont pas les premiers à utiliser ce levier et que ce ne sont pas les derniers non plus. Au menu également, un mauvais remake du Malade Imaginaire et on vous emmènera dans un camion de coiffure.
19h15, on va débattre, refaire le monde autour d'Éric Brunet, refaire notamment la percée de Valérie Pécresse dans les sondages. Pour la première fois d'un sondage, la donne gagnante face à Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et puis des points tout au long de l'émission sur le temps avec vous. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Quelle est la tendance ?
Un temps agité demain sur les trois quarts du pays, sauf au nord dans les terres où le ciel sera sec et lumineux.
Le détail dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et donc, on en sait plus ce soir sur le profil de l'agresseur présumé d'Éric Zemmour. Info RTL, l'homme placé en garde à vue dimanche soir après le meeting de Villepinte avait récemment pris sa carte chez les Républicains.
Bonsoir Guillaume Chiez.
Bonsoir.
Le jeune homme de 27 ans ne cachait pas ses sympathies pour la droite et même au-delà.
Oui, sur son profil Twitter, ce jeune homme qui vit à la Garenne-Colombes soutient d'abord très activement Philippe Juvin, maire LR de sa ville et candidat malheureux au congrès du parti. Il affirme également avoir voté pour Éric Ciotti au second tour. Valentin, c'est son prénom, est entrepreneur dans le domaine du tourisme. Il a pris sa carte chez les Républicains début novembre, mais sur les réseaux, il exprime également des positions nettement plus extrêmes. Il réhabilite par exemple le maréchal Pétain ou fustige la politique nataliste française qui pousserait, je cite, les femmes d'origines étrangères à faire deux à trois fois plus d'enfants que les Françaises. Tout cela pose évidemment question sur ses intentions dimanche dernier, lorsqu'il s'est jeté sur Éric Zemmour juste avant qu'il ne monte sur l'estrade. Le jeune homme voulait-il l'agresser ou lui témoigner vigoureusement son soutien? Pour le moment, aucune information n'a filtré concernant sa garde à vue. On devrait connaître dans la soirée les suites judiciaires auxquelles il s'expose.
Les informations de Guillaume Chiez avec Marie Mollet du service politique d'RTL. RTL qui vous le révélait aussi tout à l'heure, quelques jours après la rencontre entre Emmanuel Macron et le prince héritier saoudien. L'arrestation ce matin à Roissy d'un des suspects du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 à Istanbul.
Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
Il s'agit d'un Saoudien de 33 ans, ancien membre de la garde royale à Riyad. Dans quelles circonstances a-t-il été arrêté ?
Eh bien, l'homme s'est tout simplement présenté à l'embarquement d'un vol pour Riyad ce matin à Roissy avec un passeport à son nom. Or, le Saoudien est visé par une notice rouge d'Interpol, autrement dit un mandat d'arrêt international émis par la Turquie après l'assassinat commis sur son sol en 2018. Les ordinateurs de la police de l'air et des frontières ont donc immédiatement sonné. Le suspect a été placé en rétention. C'est la règle lorsqu'il y a un mandat d'arrêt. D'après nos informations, il nie. Il assure avoir aucun lien avec le meurtre du journaliste. Pourtant, son nom et sa date de naissance correspondent parfaitement. Des vérifications biométriques sont en cours. Une fois son identité confirmée, eh bien la suite, ce sera sa présentation à la justice française, a priori demain matin, où le mandat d'arrêt lui sera notifié. Il peut soit accepter directement son extradition vers la Turquie, soit la contester. Un juge décidera alors de son éventuelle incarcération en France ou de son maintien sous contrôle judiciaire.
Info RTL signé Thomas Proutot.
Ça ressemblerait presque à un déplacement de campagne, bain de foule, rencontre avec des commerçants, des élus, des associations. Sauf que ce n'est pas comme ça qu'il faut dire. L'Élysée parle d'immersion. De Vierzon à Bourges, Emmanuel Macron sur le terrain, aujourd'hui et demain, un président qui a des fourmis dans les jambes. Vous avez pu le constater depuis ce matin pour RTL, William Galibert.
Oh, on commence un peu à le connaître et oui, il y a des détails qui ne trompent pas. Ces heures passées à saluer, à discuter avec passants et commerçants, avec son immuable.
Bonjour madame, vous allez bien ? Bonjour.
Il y a aussi eu ce petit arrêt faussement improvisé dans un resto routier pour déjeuner tranquille avec ses équipes et même 10 minutes de conversation informelle avec les journalistes. Ça fait très longtemps qu'on n'y avait pas eu droit. Pour faire simple, Marion, on dirait un sportif qui retrouve ses marques, qui se chauffe petit à petit avant de reprendre la compétition. Alors officiellement, Emmanuel Macron prétend l'inverse. Non, il n'est pas en campagne, il fait juste son job. Officieusement, il sait qu'il ne doit pas en faire trop. Les gens n'ont pas la tête à ça. Ils sont sur le sanitaire, sur l'économie. La campagne, ils y viendront en février ou mars, nous a expliqué le président hors micro. Un président qui continuera demain à Vichy cette campagne qui ne dit pas son nom.
Oh, William Galibert à Bourges pour RTL. Emmanuel Macron et son entourage qui étudieront sans doute attentivement ce sondage Elabe pour l'Express dans lequel Valérie Pécresse est donnée gagnante au second tour face au président sortant. On va y revenir tout à l'heure dans le journal de 19h.
A eu une pause et puis dans un instant, Pfizer et Moderna, même combat. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h08, la suite de votre journal sur RTL. Tiens, avec cette petite phrase qui attire ce soir l'attention, il est quasiment certain qu'Omicron n'est pas plus grave que Delta.
Une phrase signée du docteur Fauci qui conseille le président américain sur la crise sanitaire. Il pourrait même être, selon lui, moins sévère, mais pour avoir la confirmation, il faudra encore 2 semaines au moins.
Alors, une certitude en revanche, dans la campagne de rappel actuellement lancée, ce sera peut-être votre cas si vous attendez ce qu'on appelle la fameuse troisième dose, le vaccin Moderna se présente d'ores et déjà comme un incontournable.
Oui, à la faveur des stocks et des livraisons, d'autant que choisir Moderna peut permettre d'avoir un créneau plus rapidement et il y a d'autant moins de doutes à avoir qu'il est tout aussi efficace, hein, Virginie Garin.
Il est même un tout petit peu plus efficace que le Pfizer après une troisième dose selon plusieurs études scientifiques, dont une réalisée à très grande échelle auprès d'un demi-million de vétérans américains. Sur 100 000 personnes qui ont eu un rappel avec le Moderna, 45 ont attrapé le Covid, il y en avait 57 avec le Pfizer. Mais bon, les deux vaccins sont extrêmement efficace et compatible. Vous avez avec les deux 20 fois moins de risque de vous retrouver à l'hôpital après un rappel. Ce sont des technologies identiques à ARN messager. On envoie un petit message à votre organisme qui lui fait produire des anticorps contre le Covid. Alors une différence, le Moderna est déconseillé aux moins de 30 ans car il y a eu des cas très rares chez des jeunes hommes surtout de myocardite, d'inflammation cardiaque, 138 cas par million d'injections. Pas de décès. On a en France de gros stocks de Moderna, plus de 30 millions d'injections possibles et les livraisons vont monter en puissance, donc on va en trouver de plus en plus dans les centres, les pharmacies et chez les médecins.
Précision signée Virginie Garin pour RTL. À l'hôpital, la tension se confirme, pan blanc déclenché aujourd'hui dans tous les établissements de Provence, Alpes-Côte d'Azur, à Metz. L'objectif justement, c'est de ne pas en arriver là. Objectif compliqué avec 93% des lits de réanimation actuellement occupés dans le département de la Moselle. Marie-Odile Saillard est la directrice de l'hôpital de Metz.
Alors l'hôpital est en tension depuis 8 jours, je l'ai déclaré en tension semaine dernière. Ça veut dire qu'on met en alerte un certain nombre de dispositifs. On essaie d'éviter de déclencher le plan blanc, il n'est pas certain que nous y parvenions, mais nous allons chercher à différer au maximum ce moment très délicat où nous serions amenés à déprogrammer de l'activité opératoire et à rappeler du personnel. Donc nous cherchons à, je dirais, utiliser les ressources en ne les gaspillant pas, en particulier à la veille d'une période de congé scolaire. Tant que nous pouvons tenir, nous essaierons de maintenir notre capacité opératoire.
La directrice de l'hôpital de Metz avec Samuel Goldschmidt pour RTL.
RTL, 18h11 à Sanary maintenant dans le Var, le destin tragique d'un jeune couple après l'effondrement d'un immeuble sur le port.
Effondrement sans doute lié à une explosion due au gaz. Étienne Baudu, vous êtes sur place pour RTL. Dans ce drame, une jeune maman et son fils ont été secourus. Le compagnon et papa, en revanche, n'a pu être sauvé.
Écoutez, oui, ils étaient tous les trois ensemble dans le même lit, sans semble-t-il, selon les premières constatations. Est-ce un hasard ou l'instinct paternel? Mais les sauveteurs déblayeurs, après avoir creusé et étayé une galerie sous les décombres, découvrent le corps sans vie du père Thibault, recouvrant celui de son bébé de quelques mois, qui lui est bien vivant et ne porte les traces que de quelques égratignures. La mère, elle aussi, est saine et sauve. Tragique aussi ce détail. Thibault venait de reprendre le restaurant paternel, une institution florissante ici à Sanary, qui se trouve dans l'immeuble mitoyen de celui qui s'est effondré. Le couple venait d'emménager dans une maison à l'extérieur du village. Il n'aurait donc pas dû se trouver cette nuit dans cet appartement. Lambert, un ami d'enfance, raconte.
Il venait d'avoir sa maison et malheureusement, il a eu un cambriolage qui a fait qu'il est revenu ici quelques jours. Et c'est à ce moment-là où ça arrivait. Enfin, c'est très dur à expliquer. Ouais, c'est un mec formidable.
Un type vraiment bien, avance un autre ami, les yeux embués.
Étienne Baudu à Sanary-sur-Mer pour RTL. Par ailleurs, les recherches de deux disparus se poursuivent. 18h45 tout à l'heure, Ligue des Champions, le PSG face à Bruges. Le PSG déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Avec une tournée des calendriers dont ils se souviendront. C'était samedi à Monteplein, dans le Jura. Les pompiers sont en train de distribuer leurs calendriers. Donc, ils passent devant la maison de monsieur le maire, Luc Béjean, quand tout à coup, tout s'accélère.
J'étais en train de nettoyer ma descente de garage lorsque les pompiers sont passés. Puis, tout d'un coup, le téléphone a sonné. Un accouchement avait lieu sur la commune à environ 150 mètres de chez moi. La pompier est partie en courant d'un côté, l'autre est partie chercher la voiture, parce qu'apparemment, il y avait véritablement urgence. La preuve, au bout de 10 minutes, le bébé était né. Voilà. C'est dans le salon que ça s'est passé, voilà. Et la maman et le bébé vont très bien. C'est une petite fille, Chiara, hein, qui est en pleine forme.
Bon, bah, elle mérite la une du prochain calendrier de 2022, peut-être 2023.
Chiara, née à Monteplein. On lui souhaite plein de bonheur. Merci beaucoup, Marion, à tout à l'heure. Le temps maintenant... Cher Peggy, alors, est-ce que vous avez quelques bonnes nouvelles? Parce que ça fait quand même quelques jours qu'on se fait doucher là.
C'est vrai, j'ai quelques bonnes nouvelles, mais pas pour tout le monde. Oui, je vais commencer par le mieux, d'accord? Et comme ça, en plus, vous allez être contents, puisque la région Loire est concernée. Dans les terres, c'est vrai, entre les Pays de la Loire, le centre, l'Île-de-France, la Bourgogne, la Champagne. Un temps sec toute la journée, un ciel variable. Ailleurs, ce sera bien agité, un ciel de traîne. Alors le matin, on va retrouver le reste de la perturbation d'aujourd'hui sur la façade est, avec de fortes pluies entre la Côte d'Azur et la Corse. Sur les côtes de la Manche, la façade atlantique et toute la moitié sud, de fréquentes averses toute la journée. Parfois orageux sur les côtes, avec du grésil, beaucoup de vent, des rafales jusqu'à 90 km/h, 110 sur le Cap Corse. Bref, un temps agité, ce n'est pas fini, puisque demain on attend également de bonnes chutes de neige sur tous les reliefs, surtout sur les Alpes. Alors attention, situation à surveiller, un fort risque d'avalanche possible. Les températures minimales sont quasi stationnaires, de 1 à 5 degrés jusqu'à 8 à Toulon, et les maximales de 5 à 8 degrés jusqu'à 13 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et maintenant sur RTL, gros plan donc sur une étude choc. En 130 ans, rien n'a changé. L'écart entre les plus riches et les plus pauvres n'a pas bougé sur Terre. C'est la conclusion d'un long rapport de chercheurs réputés, le Laboratoire sur les inégalités mondiales. On va poser trois questions à la brigade RTL pour mieux comprendre. Bonsoir Émilie Beaujard.
Bonsoir.
Donc, aucun changement depuis 1890.
Eh bien non, les 10% les plus riches captent plus de 50% des revenus de la planète, quand les 50% des plus pauvres captent seulement 8% des richesses. En termes absolus, ce sont les mêmes écarts qu'à la fin du 19e siècle. Alors bien sûr, il y a moins de différence aujourd'hui entre la France et la Chine, par exemple, mais les inégalités à l'intérieur de la France et de la Chine, elles, ont considérablement augmenté. Même constat du côté des inégalités femmes-hommes. En moyenne, dans le monde, les femmes touchent aujourd'hui 35% des revenus du travail, soit guère plus qu'en 1990.
Comment expliquer ces fossés persistants?
Alors, les ultra-riches n'ont en fait de cesse de capter plus de richesses sans que cela profite aux plus pauvres. Et l'autre problème, c'est l'optimisation fiscale qui fait que les plus riches sont proportionnellement moins taxés que la classe moyenne.
La pandémie a aggravé ce constat?
Alors oui, en 2020, les milliardaires ont engrangé un gain de 3600 milliards de dollars, l'équivalent des dépenses annuelles de santé de l'ensemble des pays du monde. C'est colossal. Et dans le même temps, 100 millions de personnes supplémentaires sont tombées dans l'extrême pauvreté.
On peut inverser cette tendance vieille de 130 ans?
Alors, les économistes sont clairs. Les inégalités ne sont pas une fatalité. Elles sont le résultat de choix politiques et fiscaux. Donc, ce que disent ces économistes, ils préconisent une plus grande taxation des riches. Et vu le montant des fortunes, même une petite taxation permettrait de faire entrer beaucoup d'argent pour les gouvernements.
Les explications de la brigade RTL signée Émilie Bojard. Une petite pause dans RTL Soir et ensuite on va accueillir notre invité. Direction l'hôpital. Est-ce qu'il peut tenir l'hôpital? Est-ce que les mesures du gouvernement décidées hier sont suffisantes? Mathias Vargon, chef des urgences à Saint-Denis, dans le département le moins vacciné de France, sera notre invité juste après ça. À tout de suite.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée, 18h20. Ce soir, RTL vous emmène donc à l'hôpital. Les dernières mesures du gouvernement sont-elles suffisantes? Suffisantes pour le protéger? Plan blanc déjà activé dans les établissements de Lyon, de Provence-Alpes-Côte d'Azur, du Grand Est. Ce soir, direction la Seine-Saint-Denis, le département le moins vacciné de métropole. Notre invité est Mathias Vargon. Bonsoir Mathias Vargon.
Bonsoir.
Chef du service des urgences à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Vous, vous mettez en garde, vous craignez le déferlement de cette cinquième vague. Est-ce que concrètement, vous voyez cette vague monter déjà dans vos services ?
Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas un déferlement. Ça monte et depuis deux semaines, ça monte franchement. On reçoit beaucoup de Covid non vaccinés quand même. Et il y en a quelques-uns qui vont en réanimation.
Concrètement, racontez-nous pour que les auditeurs comprennent bien votre réalité, votre boulot de tous les jours dans votre service. La réalité, c'est quoi ? Aujourd'hui, des patients Covid, quand vous dites plus nombreux, c'est-à-dire alors, ça a doublé, ça a triplé ? Est-ce qu'il y a déjà un manque de lits ?
Le problème des chiffres, c'est que c'est toujours interprétable. Nous, on hospitalise 3, 4, 5 Covid par jour, ce qui est beaucoup. Et notre réanimation, elle est à moitié remplie de Covid. Ce qui est beaucoup aussi, puisqu'on est déjà à palier, ce qu'on a, on a mis les patients en palier, en fait, enfin les niveaux d'alerte en palier, on est déjà à un palier 2 et quasiment à un palier 3. Donc ça fait beaucoup de patients en réanimation, et on a quasiment autant de patients en réanimation que dans le reste de l'hôpital.
Ça veut dire
donc
que...
oui, ouais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de patients Covid et beaucoup de patients graves.
Et ça veut dire que vous vous posez déjà la question d'un potentiel manque de lits ? Enfin, c'est déjà le casse-tête ?
Alors, c'est déjà le casse-tête, parce que de toute façon, c'est le casse-tête toute l'année, mais c'est un casse-tête bien plus important, puisque les patients Covid sont isolés. Et oui, on se pose un problème de lit, parce qu'on a ces patients Covid, en plus de nos patients habituels. Et pour la réanimation, c'est déjà un casse-tête. On passe beaucoup d'appels avant d'avoir un lit en réanimation en Île-de-France.
Et ça veut dire que vous évacuez déjà des malades parfois hors de l'hôpital pour justement faire de la place au
tout
sein
à fait.
De la réanimation ?
Alors, ce n'est pas pour faire de la place, c'est parce que nous n'avons pas de place en réanimation que nous transférons des patients hors de notre hôpital. On l'a fait hier. Hier, on en a transféré 3, par exemple, vers d'autres hôpitaux de façon à... Bah, de façon, on n'avait pas le choix. Pour les prendre en charge, il fallait qu'ils soient pris en charge ailleurs que chez nous.
Vous nous disiez un peu plus tôt, beaucoup de non-vaccinés, c'est-à-dire en proportion parmi les patients Covid.
Dans notre réanimation, on a fait le compte. Actuellement, on n'a pas de vaccinés en réanimation.
Vous n'avez pas de vaccinés en réanimation
dire, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des patients graves vaccinés. Hier, on a eu un patient grave vacciné. Ce matin, on avait un autre patient très âgé, par contre. Donc, on sait que ça agit moins bien, ouais. La vaccination, qui était vaccinée et qui était sévère. Mais oui, on a des patients vaccinés, c'est normal. Plus vous avez de vaccinés, plus vous avez quelques patients qui vont échapper à l'effet du vaccin.
Mais
la
majorité,
plupart de nos patients, ouais, sont non vaccinés.
Non vaccinés et jeunes, parfois ?
Dans notre réanimation, 40% des patients ont moins de 50 ans.
Moins de 50 ans.
Donc c'est jeune.
Oui, c'est jeune, on peut
pour
le dire.
Pour moi qui ai plus de 50 ans, c'est jeune.
Et vous êtes dans un département très jeune, mais dans un département aussi mal vacciné. 36% des habitants de Seine-Saint-Denis n'ont pas reçu la moindre dose. C'est considérable, c'est un triste record en métropole. Quand on vous lit sur les réseaux sociaux, Mathias Vargon, parfois on sent une colère presque froide envers ces non-vaccinés aujourd'hui.
Non, en fait, la colère, elle est envers les gens qui les désinforment. Mes patients, c'est pas des gens qui sont à fond contre la vaccination, ils sont pas fous, ils parlent pas de Big Pharma, ils parlent pas de complot, mais ils sont très mal informés et ils sont informés sur des faux effets secondaires du vaccin, sur tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, parce que mes patients vont sur les réseaux sociaux comme tout le monde et ils sont très désinformés. Et ma colère, elle va pas contre ces gens-là. Elle va contre les gens qui sciemment les désinforment. Ceux qui font leur beurre, et notamment les politiques qui font leur beurre avec les anti-vax pour glaner quelques pourcentages dans les sondages.
Comment tiennent vos équipes ? Parce que qui dit cinquième vague dit, on l'a dit, plan blanc dans beaucoup de régions. Ce n'est pas encore le cas de l'Île-de-France, mais
non, pas encore.
Forcément, il y a des infirmiers, des médecins qui vont devoir reporter leurs vacances de Noël. C'est le cas déjà dans beaucoup d'établissements en France. On imagine que c'est très compliqué pour le moral des troupes, ça.
Alors, dans mon établissement, on a réussi quand même à conserver les vacances, en tout cas dans notre service à peu près. Et on va essayer de le faire aussi cette année, aussi à Noël, parce que sinon, les gens, ils vont voter avec leurs pieds, ils vont finir par partir. Mmh. Donc, il faut que les gens partent en vacances, c'est absolument nécessaire. Mais par contre, ça va avoir un impact sur la déprogrammation de chirurgie. Alors, ça ne l'est pas encore, puisqu'il n'y a pas, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de plan blanc en Ile-de-France, ouais. Mais ça risque d'avoir un impact, donc un impact sur les patients. Et oui, les gens, ils commencent à en avoir assez, ils commencent à baisser les bras. C'est toujours la même chose. Nous, on est tous vaccinés, et voir arriver des gens qui ne sont pas vaccinés, on risque d'avoir l'impact de la grippe aussi, parce que cette année, on voit la grippe commencer à augmenter. Mmh. Or, l'an dernier, avec les mesures barrières, il n'y avait pas eu de grippe. Cette année, on sent qu'il va y en avoir.
Ce que vous nous dites aussi, Mathias Vergon, excusez-moi, je vous coupe, mais c'est qu'en fait, il y a des gens qui ont besoin d'opérations, de rendez-vous importants pour leur santé, qui sont sans doute vaccinés, qui vont voir ces rendez-vous décalés parce qu'il y a des troupes de non-vaccinés, entre guillemets, qui arrivent dans votre établissement.
Tout à fait, c'est bien le risque. Hein, c'est qu'on soit obligé d'arrêter les activités chirurgicales ou d'autres activités médicales pour pouvoir accueillir des patients. Mmh. Alors, les urgences, on arrive à les gérer, mais tout ce qui est programmé et qui peut être décalé, mais parfois avec des risques, hein, je pense au cancer par exemple, ouais. Eh ben, on risque d'être obligé de les décaler. Mmh.
Quand on vous écoute, on s'interroge. Est-ce que les mesures décidées hier, masque à l'extérieur à l'école, priorité aux plus âgés pour la troisième dose, mais pas de jauge, pas de vacances avancées, pas de restrictions vraiment supplémentaires, est-ce que ces mesures vont suffire ?
Alors, je ne suis pas voyante. Donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup de médecins qui adorent faire des prédictions. Moi, je n'en fais pas. Évidemment que ça m'inquiète, j'aurais préféré qu'on ait des mesures plus strictes, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense que le gouvernement table sur une cassure de la vague, comme ça se passe un peu dans d'autres pays, et avec l'effet de la vaccination troisième dose, puisque toutes les vannes sont ouvertes.
Mathias Vergon, juste, je voudrais vous faire écouter une déclaration, parce que c'était ce matin sur RTL, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a contesté à notre micro, dans ce studio, le terme explosion pour parler du Covid chez les enfants, et il a expliqué que les petits se contaminaient davantage en famille qu'à l'école.
On ne peut pas dire qu'il y ait une explosion, le mot est trop fort, il y a un taux d'incidence qui est en train d'augmenter.
Attendez, on a 950 cas pour 100 000 habitants et fin novembre on était à 390 cas
C'est tout simplement parce qu'on fait plus de tests, on fait beaucoup plus de tests chez les enfants.
Mais quand Bruno Lina, le virologue, dit l'école est le principal accélérateur de l'épidémie aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec ça?
J'ai arrêté de commenter les commentaires des épidémiologistes.
Alors, les taux de contamination sont assez verticaux à l'école primaire. Des études de l'Institut Pasteur, la revue de Lancet, prouvent qu'il y a davantage de risques de tomber malade quand on a des petits à la maison, quand on est parent.
Quand on a des petits à l'école, justement.
À l'école, qui rentrent à la maison ensuite. Est-ce que vous avez l'impression que le ministre minimise en quelque sorte le rôle des enfants dans cette cinquième vague ?
Moi, j'ai l'impression que tout le monde minimise. On a eu les pédiatres aussi, en fait. Voilà, pour moi, c'est clair, mais je ne suis pas épidémiologiste. Oui. C'est clair que les enfants se contaminent entre eux à l'école et qu'ils ramènent ça à la maison. Et c'est visible depuis la première vague. Alors, c'est vrai que c'est moins grave chez les enfants de façon globale. Même si on a des enfants qui attrapent le Covid, même s'il y a des formes graves du Covid chez l'enfant, globalement, c'est des formes assez rares. Mmh. Mais que les enfants colportent le Covid, transportent le Covid de la maison à l'école, de l'école à la maison, c'est clair. Il n'y a pas des milieux où on est moins contagieux que d'autres. Donc l'école, c'est aussi contagieux que la maison. Quoi.
Merci Mathias Vergon, chef du service des urgences à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL pour nous parler de votre quotidien, de votre travail aux urgences dans ce département particulier parce que c'est le moins vacciné de métropole. Merci d'avoir été notre invité. Une petite pause dans RTL Soir et ensuite les dessous de l'actu, les dessous du rush de Noël à la Poste. On vous emmène dans un entrepôt où 750 000 paquets transitent chaque jour.
RTL Soir, Julien Cellier.
18h31.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Il est grand temps de vous rappeler les titres de l'actualité. Marion Calais, on vous écoute.
Avec ces deux informations RTL ce soir, l'arrestation ce matin à l'aéroport de Roissy d'un des membres du commando soupçonné d'avoir démembré le journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. Il s'agit d'un ancien membre de la garde royale de Riyad. Et puis RTL vous le révélait aussi cet après-midi, l'homme qui a agrippé Éric Zemmour dimanche soir à Villepinte venait de prendre sa carte chez les Républicains. Après après la désignation de Valérie Pécresse, le bon de LR dans un sondage, sondage Elab pour l'Express. La présidente de la région Île-de-France est candidate donc des Républicains et donnée gagnante au second tour face à Emmanuel Macron. Et puis le PSG face à Bruges, match de la Ligue des Champions dans un quart d'heure à suivre en fil rouge sur RTL. Le PSG déjà qualifié pour les huitièmes de finale.
Merci Marion, bonne soirée. Je précise qu'on apprend à l'instant que le taux d'incidence, on en parlait avec notre invité il y a quelques minutes, chez les enfants de 6-10 ans atteint désormais quasiment 1000 cas pour 100 000 petits. Donc si la règle de 3 est bonne, je ne suis pas très fort en maths, mais c'est un enfant sur 100 qui est malade en ce moment. Vous confirmez Marion, vous qui avez un bac scientifique,
aïe, c'est aïe. Ça non, pas, on va dire oui.
C'est ça. Le temps maintenant, Peggy, dites-nous tout.
Très quoi. Agité sur les trois quarts du pays demain, sous un ciel de traîne actif entre les côtes de la Manche à face à l'Atlantique, la moitié sud, on attend des averses fréquentes, parfois orageuses, du grésil, beaucoup de vent, beaucoup de neige sur tous les reliefs. D'ailleurs, attention au fort risque d'avalanche sur les Alpes. Il y a tout de même des régions où le mauvais temps est épargné. Ce sera sur la partie nord dans les terres, entre les pays de la Loire, l'Île-de-France et la Champagne. Pareil du côté du Golfe du Lion l'après-midi. Le tout sous des températures maximales en baisse de 5 à 8 degrés sur l'ensemble du pays et jusqu'à 13 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
Dans les dessous de l'actu ce soir, les dessous du rush de Noël à la poste. Le Papa Noël expédie en ce moment des colis en pagaille. Bonsoir Franck Hanson.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Vous avez visité pour RTL la plateforme de la poste pour les Hauts-de-France. C'est à Douvrin, dans le Pas-de-Calais. 750 000 paquets y transitent chaque jour, c'est énorme. Et les lutins des PTT se démènent pour que les cadeaux soient déposés à temps sous le sapin.
Oui, vous l'entendez derrière moi, c'est un immense entrepôt de 23 000 mètres carrés où des cartons de toutes les formes, des cadeaux de Noël sont déchargés, des camions qui arrivent via l'une des 130 portes dirigées sur des tapis roulants, des toboggans en fonction de leur code barre, triés, pesés, des colis envoyés par des particuliers nordistes mais aussi des entreprises de e-commerce comme Amazon. Après une année 2020 record avec la crise sanitaire, la Poste prévoit un pic de 4 millions de colissimo en France mi-décembre. Des renforts ont donc été recrutés. Olivier Soriot est le directeur du site de Douvrin.
On fait partie des lutins du Père Noël. C'est pour ça qu'on a une forte croissance de nos volumes. Et l'outil industriel qui est là nous permet effectivement de s'adapter à la demande. Notre rôle, c'est vraiment d'orienter, d'aiguiller le colis en fonction de sa destination pour être livré sous 48 heures.
Alors dans cette plateforme, où il faut d'ailleurs s'équiper de casques de protection et de chaussures de sécurité, les colis restent au maximum 4 minutes.
Franck, ce qui est assez incroyable, c'est le degré de technologie de cette chaîne.
Oui, même si en ce moment, plus de 500 équipiers se relaient dans cette véritable usine logistique, tout est automatisé avec des caméras, des détecteurs de code-barres, un trieur nouvelle génération capable de traiter 32 000 colis à l'heure. Pour faciliter les opérations de manutention, les convoyeurs se déploient aussi jusque dans les remorques des 300 camions qui transitent par Douvrin. Magali, l'une des opératrices, réceptionne ces gros jouets de Noël.
Pour les enfants, pour Noël, même pour les grands, pour les enfants. Les formes.
Tout est automatisé quand même ici. Hein.
Oui, oui, même les tapis, tout ça, c'est vraiment super les tapis. On peut les monter, les descendre. Regardez, ah oui, c'est vraiment bien fait. Quoi.
Et grâce à ces outils industriels ultra modernes, cela limite fortement les risques de casse, nous précisent ces postiers qui travaillent aussi en amont avec les commerçants en ligne pour améliorer les emballages. Et alors, pour que toutes les livraisons arrivent pour le 24 décembre, sachez que cette pic période, comme on dit ici, se prépare depuis plusieurs mois. Le Père Noël n'aura pas d'excuse.
Franck Hanson avec les lutins du Père Noël dans le Grand Nord, le Pas-de-Calais pour RTL. Ouais. Merci Franck.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
RTL 18h35.
Laissez-vous tenter dernière.
Allez, laissez-vous tenter dernière maintenant. Ça, c'est le joli moment du soir. On vous offre des conseils pour aller vous aérer. On en a bien besoin en ce moment. Stéphane Boutsock pour parler ciné avec nous ce soir. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir tout le monde.
Alors, on a déjà évoqué sur RTL les sorties très attendues demain des Tuches 4 et de West Side Story de Steven Spielberg. Parmi les 17 nouveautés également à l'affiche dans 24 heures, vous en avez choisi une autre.
Tiens, une question d'abord, Julien, oui. Et à tous ceux qui nous écoutent. Vous souvenez-vous du nom de la meilleure actrice de l'année au dernier César?
Alors, je suis toujours très nul en nom, mais elle jouait dans Antoinette
Dans les Cévennes. Eh bien, c'est ça. Laure
et dans
Calamy.
10%.
Exactement. Laure Calamy, révélée par la série 10%, récompensée au César pour son rôle de maîtresse et amante partant en randonnée mouvementée avec un âne dans les Cévennes. Rappelez-vous, nous sommes le vendredi 12 mars dernier à l'Olympia.
Je repense à la jeune provinciale que j'étais et je pense
ce qu'on appelait des fous au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui ont décidé de créer la décentralisation, de créer des théâtres dans les provinces pour que l'accès à l'art ne soit pas uniquement parisien. Et sans tous ces James Stewart-là, la jeune provinciale que j'étais aurait eu une vie beaucoup plus sinistre.
9 mois après ce César, revoici donc Laure Calamy dans Une femme du monde, qui raconte le quotidien de Marie, une prostituée obligée de travailler dans une véritable usine du sexe en Allemagne pour payer les études de son fils. Film rude, d'accord, mais jamais glauque, peuplé de personnages solaires, film qui pointe le paradoxe hypocrite de la prostitution en France, profession soumise à l'impôt mais sans aucune reconnaissance sociale.
Alors c'est un rôle aux antipodes d'Antoinette dans les Cévennes, non ?
Absolument, mais c'est tout ce qui fait vibrer Laure Calamy, vous l'entendiez à l'instant, généreuse, énergique, investie, voilà une comédienne qui surprend et qui aime ça. Les mois qui viennent de passer et le prestige du César n'y ont rien changé.
Alors déjà l'année qui vient de s'écouler, écoutez, je suis vraiment vernis, puisque, non mais d'abord je n'ai, à part le premier confinement que j'ai vécu comme tout le monde, j'ai pas arrêté de tourner, donc je veux dire, j'ai eu vraiment beaucoup de chance et beaucoup de liberté. En tout cas, il n'y a pas eu la chose que je craignais, qui serait plus aucune proposition, parce qu'on se dit, oh, bon, César, maintenant, vas-y, laisse tomber. Non, mais ce qui peut arriver, je me souviens d'Emmanuel De Vos qui avait raconté ça, qu'elle avait, pendant un an, elle avait presque plus de propositions. Donc moi, j'étais terrifiée de ça.
Laure Calamy, rassurée et à l'affiche demain du film Une femme du monde, réalisé par Cécile Ducrot. Vous verrez donc ça au ciné.
Très bien, voilà, on a le choix pour demain au ciné, Les Tuches, West Side Story ou Une
femme du monde. C'est vaste, non ? Bel éventail.
Voilà, exactement, très bel éventail grâce à Stéphane Boutsock. Merci beaucoup Stéphane.
Laissez-vous tenter, dernière.
Petite pause et ensuite RTL Soir continue, on va défaire le monde avec Cyprien Signy, Céline Landreau, Laurent Tessier, 20 minutes d'actu autrement. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
On va notamment défaire les JO parce que les Américains vont boycotter en tout cas en partie les Jeux Olympiques d'hiver en Chine. À tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.